2009, une seconde invitation m'a été faite pour simplement une petite intervention beaucoup plus brève, beaucoup plus rapide. Je ne me rappelais plus si elle était concomitante avec notre ami et mon ami Michel Giroux, mais ce que je me rappelle, pour livrer des anecdotes, c'est lorsque je suis arrivé, Michel m'attendait avec, comme d'habitude, des textes, des tas de nouvelles, et puis une bonne carafe d'un breuvage venant de nos régions respectives, qui sont les Alpes, Michel et moi. Et finalement, avant que d'intervenir, nous nous sommes d'abord consacrés à la dégustation de ce breuvage de qualité, et mon intervention, pour ce qui me concerne, a commencé dans cet état d'esprit, je dirais, influencé par les effluves du partage de ce petit apéritif dînatoire avec Michel dans une pièce qui se trouvait en étage, selon ma mémoire, et dans laquelle bien, nous avons dialogué, je crois, un bon moment quand même. Et alors, l'intervention était beaucoup plus brève et elle portait uniquement sur mon propre travail en 2009, si ma mémoire est bonne. Et donc, j'ai résumé un peu ce qui avait été ma démarche et l'essentiel de ma position actuelle, en deux mots. Prendre conscience dans les années 70, au début des années 70, vers 1975-1976, qu'en réalité, le projet de Luigi Russolo avait été abandonné au profit des thèses schefferiennes de la musique dite électroacoustique ou acousmatique, c'est-à-dire de la création d'objets sonores abstraits, expliquant en quoi on ne devrait d'ailleurs pas appeler ça musique concrète, mais musique abstraite, ou une abstraction subjective, et qu'il fallait revenir, ça a été mon intuition de départ, en 75-76, qu'il fallait revenir à l'objet sonore concret, le bruit réel. Et alors, vivant dans une région riche, de ce point de vue-là, parce que j'ai grandi dans un environnement industriel assez impressionnant, en fait, de barrages, de sidérurgie, d'industrie pétrochimique, etc., puisque c'est la vallée de l'Isère. Inutile de rajouter que pour aller cueillir, si l'on peut dire, avec un micro et des vieux magnétophones à ruban, tous ces bruits, c'était assez facile. Et donc voilà le premier moment de mes créations sonores de ces années-là, et qui s'est poursuivi ensuite, puisque j'ai, de manière catégorique et volontaire, voulu travailler uniquement selon ces critères, c'est-à-dire l'appréhension, la captation de ces bruits concrets, bruits industriels concrets, pour en faire les pièces sonores, et finalement réaliser le rêve pensé, imaginé, conceptualisé par Luigi Russolo dans le Manifeste de l'art des bruits en 1913, ce qui a été au fond le parcours de ma démarche sous mon patronyme, puisqu'il fallait bien trouver un nom pour me désigner, donc j'ai utilisé mon nom, Vivenza, depuis la fin des années 70, jusqu'à maintenant, même si effectivement la pleine période d'activité, parce qu'il y a eu une rencontre entre les courants dits de la noise music et de la musique industrielle, etc., du post-punk, et puis mes propres approches, a donné un éclairage qui a voisiné presque avec la quasi-célébrité de type rock de la scène, certes des des tremplins indépendants, des scènes rock indépendantes. Bon, enfin, ça m'a donné de faire des concerts avec Test Department, Clybar, enfin bon, etc. Quoi. Bon, des choses assez surprenantes, dont j'ai été d'ailleurs Brian Eno, bon, je pourrais en citer comme ça beaucoup, et réalisant, d'une certaine manière, ce que Luigi Russolo avait souhaité réaliser. Et puis alors, le soir de cette journée, nous nous sommes transportés dans un lieu dont le nom m'échappe, je ne m'en rappelle plus, et dans une ville différente, où Michel avait été invité pour faire une performance. Dadaïste, évidemment, selon sa sensibilité. Et Michel me demandant de prendre la table de mixage, des micros qu'il avait installés, dans lesquels il allait faire de la poésie déclamatoire, et évidemment jouer de sa célèbre trompette. Donc, bien volontiers, je me suis installé devant cette table de mixage. J'avais, un peu auparavant, demandé au sonorisateur de bien vouloir m'amener quelques réverbérations, chambres d'écho et éthylées pour retravailler un peu tous ces sons. Je crois que ça a été la première et unique expérience réalisée avec Michel Giroux, d'un travail commun. Je ne sais pas s'il existe un enregistrement ou pas de ça. Et alors, Michel est parti, évidemment, dans les performances dont il a le secret, ayant décoré, si l'on peut dire, l'environnement de drapeaux tibétains, appelant à la résistance des peuples des montagnes, de partout où ils se trouvent et dans les différentes régions du cercle terrestre, pour que ces populations qui possèdent des cultures, des traditions, un mode de vie, un mode de pensée, des sensibilités, des caractères vraiment singuliers et propres, cessent d'être l'otage des sortes de, je dirais, désir de soumission des puissances impérialistes qui font main basse sur ces peuples qui n'ont jamais été des peuples guerriers et qui ne se soucient pas de se battre mais vivent en paix tranquille dans les montagnes avec des magies chamaniques, des religions telluriques de la terre et du ciel. Qui ont un rapport à la transcendance et à l'immanence tout à fait extraordinaire, qui sont en contact avec aussi bien l'esprit des forêts, des sources et des clairières au sens heideggerien du terme, qu'avec les cimes escarpées des neiges éternelles, des brumes et surtout et avant tout des grandes puissances climatologiques de ces régions, c'est-à-dire les orages de montagne, que Michel a incarné ce soir-là par la puissance déclamatoire de son verbe et de sa poésie sonore, mise en écho par mes soins sur la table de mixage. Voilà comment s'est déroulée cette soirée devant un public, pour une part enthousiasmé, pour l'autre un peu stupéfait, Michel n'hésitant pas évidemment à la provocation d'Adaïs. Et nous retrouvons le soir pour un bon repas afin de célébrer comme il se devait dans des agapes à la fois artistiques, intellectuelles, métaphysiques et spirituelles la journée que nous venions de passer. J'ai dormi sur place, donc à quelques distances hein, de l'espace Gantner. On n'est pas très loin du point de vue de l'atmosphère. J'ai eu des contacts téléphoniques avec les responsables de l'espace le lendemain qui m'ont demandé si tout tout allait bien, si j'avais été content de mon passage, si tout me convenait. Et puis, je suis rentré sur Grenoble tranquillement, avec le souvenir de deux événements singuliers, mais dont je pourrais dire qu'ils se conjuguaient à merveille. D'ailleurs, pour rappel, la carte qui annonçait mon passage à l'espace Gantner en 2003 avec comme sous-titre « La musique bruitiste et son histoire au XXe siècle » était illustrée par une intervention théâtrale qui était mise en scène à l'époque par Prampolini, des futuristes italiens, où l'on voit dessiner un peu tel qu'on avait l'habitude des artistes futuristes, sans doute Marinetti et quelques autres, peut-être Russolo d'ailleurs, parce qu'on voit un individu avec une petite barbichette à la Richelieu. Les projections symbolisent ce qui provient des artistes en direction du public, mais il est important de le souligner également, de ce qui provient du public en direction des performeurs, des artistes intervenants. Et finalement, cette illustration, eh bien, la représentation parfaite de ce qui s'est déroulé avec Michel Giroud en 2009 lors de mon second passage à l'espace Gantner. Comme quoi, finalement, entre un rapport symbolique visuel et la réalité d'une démarche artistique contemporaine, il peut y avoir des liens qui nous permettent de considérer que le pont historique avec les avant-gardes créatrices et artistiques qui ont porté sur les fonds bâtissants les premiers éléments de la modernité en art et de la liberté d'expression dans tous les domaines au début du XXe siècle n'ont pas été coupés et perdurent par-delà le temps et les siècles. Voilà.
Eh bien, merci